Conservation, j'ai choisi ce titre, Conservation des ovocytes à but social, une chance pour les femmes d'aujourd'hui, avec point d'interrogation. Et on va voir si après on trouve la réponse. Je me suis beaucoup intéressée à ce thème parce que justement, dès le début, je trouvais ça très questionnant. Est-ce que maintenant, congeler ses ovules pour faire la carrière, est-ce que ça, c'est vraiment la solution, comme c'est présenté par aussi Facebook, Google et tout ça? Alors, j'avais écrit déjà en 2013 un article sur ce thème. Par la suite, dans mon activité à la Commission nationale d'éthique, on avait fait aussi une prise de position de toute la commission sur ce même thème, très différencié, très bien. Je vous recommande, on peut l'avoir aussi en ligne. Et je me suis aussi très intéressée sur le devenir des enfants et la grossesse, les accouchements, tout ça, à partir d'un certain âge. Alors, jusqu'à quel âge, plus ou moins, c'est aussi une question qui se pose dans le cadre du don d'ovocytes. Le don d'ovocytes qui n'est pas permis ici en Suisse, mais qui est permis partout, presque ailleurs, surtout en Espagne, où beaucoup, beaucoup de Suisses et d'autres femmes viennent et font les traitements. Et dans d'autres pays où il n'y a même pas de limite. Par exemple, en Espagne, il y a la limite à 50 ans. Dans d'autres pays, il n'y a pas du tout de limite pour faire le don d'ovocytes. Alors j'avais fait une expertise pour l'Office fédéral de santé aussi. Alors peut-être pour vous présenter un petit peu ces techniques, je vous présente la fécondation in vitro dans sa totalité, parce que pour préserver ses ovules, c'est quasiment comme pour faire un traitement de fécondation in vitro, sauf qu'on ne féconde pas les ovules. Ça, c'est la seule différence. C'était en 1978 où il y avait Bob Edwards qui a fait ce milestone dans la médecine de reproduction, d'avoir le premier bébé in vitro, Louise Brown, qui a maintenant plus que 40 ans. Alors, on commence avec une stimulation des ovaires et avec ça, on a plusieurs follicules et ovules dans les ovaires. On les prélève après, au bon moment. La stimulation en soi, c'est environ 10 jours, comme ça, pour des piqûres matin et soir par la suite. Alors, ce n'est pas rien. On fait tout ça en salle d'opération et après, sous une anesthésie générale ou une sédation, parce que ça fait trop mal sinon. Et après, les ovocytes vont aller au laboratoire. Si après on fait une fécondation, alors on peut faire une fécondation in vitro classique si les spermatozoïdes sont de bonne qualité, de bonne mobilité et tout ça. Alors on met les ovocytes et les spermatozoïdes ensemble et la fécondation a lieu naturellement, entre guillemets, en dehors du corps de la femme, mais autrement naturellement. Si on a un problème des spermatozoïdes, ce qui est malheureusement relativement souvent le cas, alors on a maintenant cette technique qui s'appelle ICSI, ça veut dire c'est une injection dans le cytoplasme de l'ovule, où ici il y a le spermatozoïde et cette pipette, elle met exactement ici où c'est naturellement mis aussi le spermatozoïde. Le lendemain matin, on voit deux noyaux, c'est le noyau féminin, le noyau masculin, juste avant la fusion. Alors là, c'est juste pas encore un embryon. Après qu'on les deux noyaux fusionnent ensemble, ça c'est un embryon. Alors un embryon d'abord à une cellule, après 2-4 cellules, le jour 2, jour 4, jour 3 c'est 6 à 8 cellules, ça serait environ ce stade-là. Après jour 4 c'est le stade de morula, il y a tellement de cellules déjà, on ne peut pas les compter. Et après il y a le stade de blastocyste, c'est juste le stade avant l'implantation. Et c'est en général à ce moment-là où on va transférer en général un blastocyste pour éviter les grossesses multiples. Maintenant, juste un mot encore sur la congélation. La congélation peut avoir lieu pour les spermatozoïdes ou bien pour le tissu testiculaire. Parfois, il n'y a pas de spermatozoïdes dans l'éjaculat, alors on peut trouver les spermatozoïdes dans le tissu testiculaire. Les deux, ça c'est possible depuis très longtemps. Et c'est cryoconservé dans les bonbonnes de l'assaut liquide à moins 196 degrés. Après, pour la femme, longtemps, on n'avait pas vraiment beaucoup de moyens de cryoconserver les ovocytes parce que les ovocytes contiennent beaucoup d'eau. Ils sont dans la métaphase 1. C'est relativement compliqué. C'est pas très stable, biologiquement parlé. Et il n'y avait pas beaucoup de survie et aussi de fécondabilité après la congélation. Et c'est pour cette raison, longtemps, il n'y avait pas cette possibilité pour congeler les ovules. On pouvait congeler le tissu de l'ovaire, ça oui, mais après c'est difficile aussi pour avoir après la retransplantation du tissu ovarien. C'est fait aussi aujourd'hui, mais c'est pas exactement la même chose comme les ovocytes. Alors depuis qu'il y a maintenant la cryoconservation par vitrification, c'est une technique ultra rapide de congélation. Il y a beaucoup de survie. Il y a en tout cas 85 à 95% de survie des ovocytes après la congélation et des très, très bons taux de fécondation après. C'est quasiment comparable si les ovocytes sont frais ou s'ils ont été congelés par vitrification. Et depuis ce moment-là, il y avait aussi cette possibilité de congeler les ovocytes pour les femmes. Et depuis, il y a un petit peu ce débat de la congélation des ovocytes. C'est exactement la même procédure, c'est congelé dans la soute liquide à moins 196 degrés aussi. Alors, juste encore un mot sur les coûts. Tous ces coûts ne sont pas pris en charge par la caisse maladie, ni pour la fécondation in vitro, ni pour l'ICSI, ni pour la congélation, pas pour le don de sperme non plus. Alors, congélation ni pour les ovocytes, ni pour les spermatozoïdes, du tissu testiculaire, tissu ovarien, tout ça c'est à la charge de la patiente ou de la personne qui fait. C'est pas non plus quand il y a un cancer, par exemple, une jeune femme avec un cancer du sein, 30 ans, elle aimerait être maman, elle avait peut-être déjà ce projet-là. Tout d'un coup, il y a ce cancer, il y a une chimiothérapie qui est toxique aussi pour les ovocytes, ça diminue sa fertilité. Aujourd'hui, elle peut heureusement faire une préservation de la fertilité, mais elle doit payer ça tout seule. C'est relativement beaucoup d'argent d'un coup, environ 5 000 francs en tout cas. Maintenant, un mot sur les changements de la société. Hein. On sait tous qu'il y a l'âge des mères qui continue toujours encore à augmenter pour avoir des enfants. Alors ici, il y a 1970, ce sont les chiffres de l'Office fédéral statistique, 1970, 2010, et ça ne continue pas à grandir dans le sens que l'âge à partir de 37 ans, c'est toujours plus les femmes qui sont mères à cet âge-là et l'âge des femmes qui sont inférieures à 37 ans, ça diminue toujours plus. Et l'âge moyen, c'est en-dessus de 30 ans, déjà depuis un certain temps. Et pourquoi tout ça? Bon, c'est clair, il y a plus de possibilités maintenant pour l'éducation, pour les études et tout ça. Mais il y a aussi un problème que les femmes, malgré tout, encore aujourd'hui, ne sont pas considérées la même chose si elles ont des enfants. Par exemple, il y avait un article, ça c'est un journal de Suisse allemande, devenir mère, c'est toujours indésirable. Et il y avait plusieurs témoignages des femmes et il y avait cette femme-là, le chef lui montre le nouvel organigramme de l'équipe, le nom de la femme enceinte manquait. Alors ils l'ont mis ailleurs, en tout cas pas dans les positions supérieures, malgré une excellente éducation, oui, la qualité de travail qui était bonne, mais qui n'était plus considérée la même chose parce qu'elle avait une famille. Et ça, malheureusement, ça arrive relativement fréquent. En Suisse allemande, de toute façon, ça je peux dire aussi, en Suisse romande certainement aussi, il y avait une interview avec une dame ici, et le titre c'était « Les mères sont au palmarès de la discrimination ». Parce qu'elles sont déjà, elles sont femmes et après elles sont mères. Et après, il y a aussi toujours l'écart des revenus. Il n'y a pas le même salaire pour les femmes comme pour les hommes. C'est même aussi comme médecin. C'est aussi, il y avait un article ici, les femmes médecins ont moins de salaire, mais partout, hein, dans toutes les professions. Alors maintenant, notre thème, hein, la conservation des ovocytes à but social, ça c'est un petit peu l'extrême. On conserve ses ovules et après, plus tard, peut-être après la retraite, on a le temps pour avoir des enfants. Ça c'était effectivement un article une fois. C'était une dame, une Suissesse de l'Argovie qui avait fait le don d'ovocytes à 64 ans. Et elle était à la retraite. Elle a dit, maintenant j'ai vraiment le temps. Avant, je n'avais pas vraiment le temps. J'avais d'autres intérêts. Maintenant j'ai le temps, il y a un vide, alors je fais le don d'ovocytes en Ukraine et elle a eu un enfant après. Bon, là justement c'est très questionnable. Il y a beaucoup beaucoup de promotions pour cette possibilité. Ça c'est le site Ovita, c'est de Suisse allemande respectivement, ça vient de l'Autriche. Tout à mon temps, il faut profiter de la possibilité, de cette liberté maintenant, d'avoir peut-être d'avoir des intérêts pour voyager, pour faire ci et ça. Et plus tard, éventuellement, on aimerait aussi devenir mère. Alors, il faut profiter de ça. Et alors, ils ont voilà, enfants et carrière, tout est possible. Vous pouvez abonner les newsletters et il y a des informations, des séances d'information avec le médecin ici. C'était un petit peu promu très facile, à mon avis un petit peu trop facile. Après, il y avait aussi plein de discussions en France parce que jusqu'à aujourd'hui, en France, c'est pas permis pour les raisons sociales. Il y a seulement les femmes qui donnent des ovocytes pour quelqu'un d'autre. Elles ont la possibilité de garder encore quelques ovocytes pour elles-mêmes, mais sinon, c'est pas permis. Ça, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Là, ça, c'est la présidente du Collège national des gynécologues obstétriciens français. Et elle dit, mais le désir tardif d'enfant est un phénomène de société. Je crois vraiment qu'on ne peut rien contre. C'est un acte en faveur des femmes, de leur santé et de leur bien-être, c'est clair. Il s'agit d'ouvrir la fenêtre de reproduction et de permettre aux femmes de conjuguer carrière et maternité en repoussant cette dernière. Il reste difficile pour les femmes de concilier les deux. Oui, c'est vrai, il reste difficile. Mais après, c'est toute la question. Quelle, entre guillemets, sécurité on a avec ça. Il y avait plein d'articles aussi, congeler ses ovules, un débat de gestation. Après, il y avait encore un article dans le Beobachter, c'est un collègue médecin reproduction à Bâle, il est chef à Bâle. Il a dit, dans le futur, les pères vont offrir à leurs filles la congélation des ovocytes pour leur 21e anniversaire. Il a trois filles, alors peut-être il a offert ça à ses trois filles, je ne sais pas. Mais oui, pour dire comme ça, c'est vrai que si on veut, ça fait le plus de sens de le faire à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, la fertilité, elle a plus ou moins son pic, autour de 25 ans, 20, 25 ans. Alors si on veut le faire, ça serait à ce moment-là, effectivement. Après, c'est la question, est-ce qu'on va le faire? Maintenant, comment c'est en Suisse, justement, on ne sait pas. On n'a pas de chiffres ici en Suisse. Il y a juste des estimations. J'étais longtemps présidente du groupement FertiSafe. On fait un registre, c'est un sous-groupe, une commission de la Société suisse de médecine de reproduction qui s'intéresse à la préservation de la fertilité pour des raisons de cancer ou pour d'autres raisons. Et on n'a pas tous les centres qui font partie de FertiSafe, ça c'est déjà un problème parce que c'est pas comme pour la fécondation in vitro, on est obligé de donner les chiffres. Ça c'est une loi nationale depuis 2001, on doit donner les chiffres. Par contre, là pour la préservation de la fertilité, il n'y a pas vraiment de loi. Alors c'est tout sur la volonté ou le OK du centre parce que ça fait toujours du travail aussi de donner tous ces chiffres. Alors, il n'y a déjà pas tous les centres qui font partie et parfois il n'y a pas aussi toutes les données des centres. Il y a des données qui manquent. Alors, par exemple, pour l'année 2014, il n'y avait que 4 officiels cycles de conservation pour des buts sociaux en Suisse, dans toute la Suisse, et c'est clair que ce n'est pas ça. Après, j'ai fait par hasard, j'ai lu un article dans le Micro Magazine sur le même thème. Et c'était très intéressant. Il y avait plus d'informations dans cet article que moi, comme présidente de cette commission, que je pouvais obtenir par les collègues officiellement. Alors, il pense qu'avec l'investigation de mes collègues médecins reproduction dans toute la Suisse, il y a environ 200 francs et 200 femmes qui font ça. Voilà. Après, ce n'est pas toutes les femmes qui s'interrogent ou qui font une consultation qui vont aussi le faire à la fin. Mais, alors, environ 200. Après, il y a par exemple un médecin qui n'est pas membre de FertiSafe, justement, qui a lui seul fait le traitement chez 80 patients dans une année. Et après, il y avait encore l'interview d'une dame qui est allée à Alicante, en Espagne, pour faire cette cryoconservation. Elle a investi environ 10 000 francs, ou jusqu'à 15 000 francs presque. C'était plusieurs cycles. Elle a préservé 18 ovocytes. C'était un petit peu, là, comme elle dit, son assurance. C'est comme on a une assurance contre le feu, contre ci et ça. On a un petit peu l'assurance pour avoir encore une famille plus tard. Après, un mot encore sur notre loi sur la procréation médicalement assistée. Alors, cette loi, elle est relativement vieille déjà parce qu'elle date environ depuis 1998. Et à cette époque-là, on n'avait pas encore toutes ces possibilités-là. Et c'était pas vraiment pensé à ça. Et de toute façon, c'est très différent un traitement et une conservation. Alors, on ne peut pas le comparer. Il y a très peu sur la conservation des ovocytes ou aussi des spermatozoïdes. C'est possible quasiment pour tout le monde. Il n'y a pas de critères qu'il faut atteindre ou comme ça. Il y a juste la durée de conservation. C'est l'article 16 qui le détermine. Maintenant, depuis le 1er septembre 2017, il y avait cette révision de la loi. Vous avez bien vu dans la presse, il y avait plein d'articles aussi pour le diagnostic préimplantatoire. Et entre autres, pour la conservation des ovules imprégnés, mais aussi pour les ovocytes et tout ça, c'était limité à 5 ans, et maintenant c'est 5 ans. Et si la dame ou le monsieur ou le couple veut, ils peuvent encore une fois rallonger pour 5 ans. À mon avis, c'est pas le bon. Oui, c'est pas très, ça fait pas de sens. Parce que si la dame, elle a 20 ans, elle a ce cancer, elle préserve ses ovocytes à cet âge-là, et elle est obligée quasiment de faire au plus tard à 30 ans, mais peut-être à 30 ans, elle n'a pas le partenaire ou c'est pas encore très stable. Ça serait beaucoup mieux. Par contre, par exemple, la dame qui fait la congélation des ovocytes à 42 ans, admettons, elle a encore beaucoup d'ovocytes, elle pourrait aller au-delà de 50 ans pour avoir la grossesse. Alors, ça, je trouve, ça fait pas beaucoup de sens, mais voilà, c'est notre loi comme ça. Peut-être ça changera encore. Maintenant, cette préservation de la fertilité à but social, alors c'est un traitement qu'on fait pour des femmes a priori fertiles. Et ça, c'est très différent par rapport à la fécondation in vitro qu'on fait en général parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour avoir une grossesse, un enfant. Et ça, c'est à cause des problèmes sociétaux ou bien personnels. Ça donne à réfléchir. Alors, l'argument en premier pour une préservation de la fertilité à but social, c'est qu'on peut éviter après un don d'ovocytes, parce qu'elle a encore ses ovocytes, elle peut avoir sa grossesse avec ses ovocytes et il y aura peut-être moins de dons. Ça serait très très bien, parce que le don, c'est complètement autre chose qu'avoir un enfant biologique. Après, si on a après une grossesse, tout dépend un petit peu comment est la grossesse du moment. Quand on a grossesse et accouchement, on sait très bien que surtout après 45 ans, les taux de complications, la prématurité, pour mère et enfant, évidemment, parce qu'ils sont ensemble, ça augmente. Et surtout s'il y a des grossesses multiples, heureusement aujourd'hui il y a de moins en moins de grossesses multiples parce qu'en général on propose de transférer un seul embryon et plus comme autrefois deux embryons. Mais potentiellement ça reste toujours un risque. Après, ce qu'on sait par rapport aux fécondations in vitro, il y a un taux de malformation qui est un tout petit peu élevé. mais c'est après fécondation in vitro, c'est un autre collectif de femmes. On ne sait pas exactement est-ce que c'est la technique ou est-ce qu'il y a maintenant aussi quelques recherches qui montrent que ça pourrait être aussi un facteur peut-être génétique, pas encore très déterminé ou sur quel gène c'est, mais que ça pourrait être l'infertilité en soi qui fait que les enfants ont un petit peu plus de risque d'avoir une malformation. Ce n'est pas un risque énorme qui, c'est au lieu d'avoir 4 à 6% après conception spontanée, c'est environ 6 à 8%. Mais c'est un petit peu plus. Mais là, il y a encore plein de questions. Pourquoi c'est? Si jamais ça serait la technique, évidemment, ça serait aussi, ça concernerait aussi les enfants après la cryoconservation des ovocytes. Parce que ce sont des femmes a priori fertiles. Si ça serait l'infertilité, ça ne concernerait pas. Mais ça, toutes ces données, on n'a pas encore. Après, cette nouvelle méthode, la vitrification, on a jusqu'à maintenant pas mal de données, mais pas encore beaucoup, beaucoup. Mais jusqu'à maintenant, les données sont très favorables. Il n'y a pas plus de malformations, pas plus de complications après la vitrification par rapport au devenir des enfants, comparé avec les cycles qu'on fait tout de suite, le transfert. Après, il y a toute la question, les complications après fécondation in vitro au niveau plutôt épigénétique. Il n'y a pas encore des études à 100% claires, mais il y a des études qui soupçonnent plus de problèmes peut-être cardiovasculaires, éventuellement métaboliques, un petit peu plus d'obésité, une peut-être légère augmentation de cancer. Après, psychiatrique, là, c'est toujours aussi l'âge des femmes et hommes. Ça fait aussi un impact sur les schizophrénies, même l'autisme et tout ça. Alors, est-ce que c'est à cause de l'âge? Est-ce que c'est à cause de la technique? Tout ça, ce n'est pas encore très, très clair, mais alors ça, il faut absolument encore, c'est à suivre. Après, la structure de la famille. Si on s'imagine la dame, elle revient pour faire un traitement avec ses ovocytes qui sont congelés, ça marche, elle a son accouchement à 45 ans, à 60 ans, elle a son enfant en pleine puberté. Et si ça serait beaucoup plus tard, admettons 55 ans hein, par exemple, ça serait à 70 ans. Et ça c'est quand même aussi pas facile. Après, ça pourrait donner aussi des problèmes potentiellement psychologiques pour l'enfant, hein, où on pourrait confondre la mère avec la grand-mère, hein, ou des choses. Ouais. Après, le problème aussi que les vraies grand-mères, après, sont tellement âgées qu'ils ne peuvent plus vraiment garder les enfants. Maintenant, les potentielles conséquences pour la femme. Alors, les risques en soi pour la stimulation, il n'y a pas plus de cancer à notre connaissance, ni cancer du sein ou comme ça. C'est relativement sécure. Les complications lors du prélèvement, c'est aussi extrêmement peu probable. C'est inférieur à 1 sur 1000, mais c'est quand même une petite opération. C'est pas rien. Une fois, il pourrait avoir un saignement ou une infection. C'est pas exclu. Risque d'une hyperstimulation, c'est très bas avec nos protocoles d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de progrès au niveau des protocoles, ça c'est très très bas. Nous, avec cette méthode-là, on a plutôt le problème qu'il n'y a pas assez d'ovocytes, mais pas qu'il y a trop d'ovocytes. Moi, je pense vraiment le problème principal, le risque, c'est le risque d'échec, parce qu'il n'y a pas assez d'ovocytes, ou il y a déjà l'âge tellement avancé. Après, l'aspect financier, ça c'est quelque chose qui est très important. Les coûts, s'il faut faire par exemple 3 cycles, ça peut facilement monter à 15 000 francs. Et un point peut-être positif que je vois souvent dans ma consultation, c'est justement plutôt chez nous en Suisse, en tout cas, je ne vois pas les carriéristes, les femmes qui veulent à tout prix faire la carrière, comme c'est peut-être aux États-Unis plus le cas, mais ici en Suisse, c'est vraiment la femme 37 ans, 38 ans qui vient d'avoir une rupture de couple et qui a ce désir d'enfant extrêmement fort depuis toujours et qui est désespérée et qui veut faire tout ce qu'elle peut avant de trouver quelqu'un, oui, pour garder sa fertilité au maximum. Et ça, je l'entends souvent de ces femmes, c'est un soulagement énorme pour pouvoir faire quelque chose activement, psychologiquement. Comme ça, au moins, elle a fait quelque chose, elle n'est pas là comme ça, sans moyens. Après, ce que je trouve justement un petit peu questionnable pour tous, c'est le problème principal, c'est de concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Ça reste inchangé. Et c'est seulement le moment qui est déplacé à plus tard. Et après, il faut savoir, il n'y a jamais un moment idéal pour avoir des enfants. Alors, ça, c'est inchangé. S'il y aurait une femme à 50 ans, elle est dans sa profession, elle a fait toute sa carrière, après elle doit se lever pendant la nuit pour son nourrisson, c'est pas beaucoup mieux qu'une femme à 30 ans. Alors, ça reste. Après, aussi, ce que j'avais déjà dit, hein, les grands-parents, il y a moins d'aide, c'est plus difficile. Et après aussi, les femmes qui sont devenues mères tellement tard aussi, elles n'ont pas beaucoup de chances d'être grand-mères plus tard aussi. Et après ça, c'est une réflexion potentielle. Est-ce que si c'est comme ça vendu comme solution pour le problème, alors on a ça maintenant comme Facebook, Google. Alors faites votre carrière, vous congelez vos ovules, tout va bien, nous payons encore ça. Ça pourrait être attendu aussi des femmes de faire leur carrière et de ne pas avoir la famille jusqu'à 40 ans. Après déjà, c'est pas une garantie. Peut-être à 40 ans, elle n'a justement pas son enfant. Et après, est-ce que les changements sociétaux, ça pourrait encore être retardé avec ça, parce qu'il y a la solution. Alors, on peut dire la préservation de la fertilité, c'est une solution symptomatique des problèmes. Ça peut faire beaucoup de soulagement. C'est bien qu'il y a cette technique, c'est un plan B pour plusieurs situations. Mais je pense vraiment c'est souhaitable qu'il faut avoir des solutions, des stratégies, un changement sociétal. Mais ça demande du temps, hein, ça demande une génération en tout cas pour changer la société. Alors plus de garderies, après déjà comment on voit la femme dans la société, après les écoles journalières, des structures qui accueille aussi des enfants avec des maladies légères, ça c'est toujours aussi un petit peu un problème quand l'enfant est malade. Après l'encadrement pour les enfants, il y a quelques possibilités, mais ce n'est pas toujours. Et ça, surtout ça, l'acceptation des femmes dans des positions aussi à la tête, aussi si elle a les enfants, ou bien plus d'emplois à temps partiel, un petit peu le modèle en Suède qu'on se partage, hommes et femmes. Et après, justement, l'égalité, malgré tout, il n'y a pas encore vraiment d'égalité. Et après aussi, déjà à l'école, le taux de grossesse a diminué avec l'âge. J'ai parfois des femmes encore, elles viennent à 40 ans, elles sont toutes étonnées qu'elles ont très très peu de chances d'avoir une grossesse. C'est des femmes très éduquées, hein. Après les risques croissants d'une fausse couche aussi, les risques croissants pour les complications pendant la grossesse, là aussi il n'y a pas beaucoup de prise de conscience. Et après toujours les réflexions éthiques en ce qui concerne surtout après le traitement de fécondation in vitro avec ses ovocytes, jusqu'à quel âge le bien de l'enfant ou les risques pour l'enfant, c'est pas toujours la même chose comme l'autonomie reproductive. Dans la législation suisse, c'est très bien décrit, hein. Il y a en premier, il y a le principe de bien de l'enfant, c'est déjà l'article 3. Mais voilà. Après, toujours voilà, préservation de la fertilité à but social, c'est la médecine de la reproduction pour des femmes fertiles. Et là, il y avait encore deux articles que je trouvais intéressants. Déjà un petit peu, ça date, c'était en allemand, mais c'était justement ils ont questionné cette technique dans le sens que Si on attend maintenant des femmes que c'est la solution et que qu'il faut plus faire d'autres changements sociétaux ou comme ça, là, ça devient un petit peu questionnable. Et là, c'était aussi un article, justement, les e-babies, c'était Facebook et Apple qui ont après, oui, qui ont proposé ça. Et après, est-ce que les employeurs décident quand quand la femme elle a les bébés? Et après, est-ce que c'est une libération ou un esclavage des femmes? Ça, c'est une bonne question. On pouvait discuter. Là, j'aimerais vous présenter encore quelques articles plus scientifiques. Alors, il y a un article qui montre que les femmes aujourd'hui qui viennent pour faire ça, pour finir, elles viennent trop tard parce qu'elles n'ont presque plus d'ovocytes. La réserve ovarienne s'abaisse dramatiquement déjà après 35 ans, 38 ans. Après, il y a toujours, ça peut être individuel. Mais là, il y avait un âge moyen de presque 38 ans. Et il y avait un cinquième de ces cycles qui ont été mis off parce qu'il y avait zéro ovocyte ou follicule ou maximum 3. Et c'est extrêmement peu. Après, il y avait encore une étude là, c'est l'âge aussi de 37 ans de ces femmes qui ont fait la préservation de la fertilité. Qu'est-ce qu'elles pensent? Est-ce qu'elles vont revenir chercher les ovocytes, oui ou non? Il y avait environ la moitié qui a pensé qu'elles vont rechercher ces ovocytes. Mais alors parfois, il y a aussi ces traitements. Pour finir, c'est pour rien parce qu'elles ne vont pas rechercher. Tant mieux pour les femmes, hein, mais c'est ça. Après, encore une étude qui a regardé un petit peu, c'était 2016 déjà, une étude de l'Espagne qui a regardé combien et le succès aussi et combien reviennent pour chercher. Et c'était en tout, c'était presque 1500 femmes qui ont fait cette préservation de la fertilité. Mais il y avait très très peu de femmes, c'était 137 femmes seulement, alors environ 9% qui sont retournées pour les utiliser après. Et après, elle a fait un petit peu les calculs, combien d'ovocytes il faut pour avoir un tel nombre de succès, de chances de grossesse. Et environ, il faut avoir en tout cas 11 ovocytes, mais tout dépend après aussi de l'âge. Alors, par exemple, une dame qui a plus de 36 ans, si elle a 5 à 8 ovocytes, elle a entre 5 et 20% seulement de chances de grossesse. C'est pas beaucoup, beaucoup. Alors, la conclusion de cette étude, c'était en tout cas, il faudrait avoir 8 à 10 ovules pour avoir un petit peu des chances, mais après, ça dépend combien de chances. Là, il y avait encore une étude plus actuelle. Non, l'autre, c'était plus actuel. Ça, c'était de la même année. Et là, c'était aussi très intéressant. Il y avait les différentes tranches d'âge, entre 30 et 34, 35 à 37, 38 à 40 et 41 à 42. Et en bleu, on voit au moins avoir un enfant. Après, le rouge, c'est avoir en tout cas deux enfants. Et le vert, c'est trois enfants. Et là, vous voyez les pourcentages. Et ici, vous voyez le nombre d'ovocytes. Alors, ça va jusqu'à 30 ovocytes. Et dans la tranche d'âge 30 à 34, c'est plus ou moins la meilleure tranche d'âge. Alors, il y a des très bonnes chances, il y a presque 90% de chances si on a 30 ovocytes pour avoir un enfant. Après, si on veut avoir plusieurs enfants, et bien sûr, ça diminue beaucoup. Après, si on regarde ici, par exemple, admettons 10 ovocytes, on arrive ici, c'est environ 60%. Alors, si on regarde plus loin dans les âges, là, 38 à 40, par exemple, 10 ovocytes, on arrive ici, maximum 40%. Et là, c'est dramatique, ça s'aplatit beaucoup, beaucoup. Là, si, même si à 42 ans, on aurait encore 30 ovocytes, ce qui est réel, hein, mais on arriverait à 50-50, hein, 50% environ pour avoir un enfant. Ça, c'était une étude un petit peu plus récente, encore 2017, mais qui montre plus ou moins les mêmes chiffres. Ça, c'est aussi la probabilité, de 0 à 100%. Et ici, le nombre d'ovocytes, là, ça va même jusqu'à 100. Et là, les différentes tranches d'âge. Et ici, les donneuses d'ovocytes. Alors, les donneuses, c'est clair, elles ont le meilleur profil, le meilleur âge aussi, les meilleures chances avec ça. Et après, voilà, là, on est à 30 ovocytes, ce qui est, ouais, ça leur donne un petit peu, ouais, environ. Mais ça, c'est inférieur à 35 ans, hein. Et là aussi, autour de 36 ans, 35 ans, c'est 90%. Et après ça, là, on a 30 ovocytes, ce qui est réel. Ça, on arrive à 20%. Alors, et là encore, juste un article plutôt éthique. Ça, ils ont dit aussi, il faut bien voir les limitations, surtout aussi les risques. Et un article encore du British Medical Journal parce qu'ils ont un registre, ça c'est bien, contrairement à la Suisse, ils ont un registre où il y a les chiffres. Et le titre c'était Is too much hope placed in egg freezing? Est-ce qu'il y a trop d'espoir dans cette conservation? Et là aussi, ils ont vu qu'il y a un boom. C'était en 2008, il y avait environ 2000, presque 2500. Déjà en 2013, ça a triplé environ. Et après l'annonce de Facebook et Apple, il y avait encore plus de demandes. Et après, ils disent aussi, c'est les médias le vendent un petit peu aussi comme une révolution, et la solution pour les problèmes. Mais pour finir, il faut être aussi un petit peu raisonnable et dire vraiment comment sont les chiffres. Et après, les coûts. Ils ont discuté aussi les coûts qui sont aussi très élevés, pas seulement en Suisse, mais aussi partout, et surtout aussi aux États-Unis. Et après, ça, c'était encore un article très actuel qui est intéressant pour les coûts et l'efficacité. Et il a regardé un petit peu le nombre de femmes qui ont justement fait ou le nombre d'ovocytes qui ont été congelés et le nombre qui ont été utilisés. Et c'était environ 3 à 9% qui ont après repris, fait un traitement avec ces ovules. Et avec ça, il a calculé combien ça coûte pour congeler tous ces ovocytes et après combien ça coûterait pour avoir un bébé. Et c'est entre 600 000 à 1 million pour finir, parce qu'il y a tellement ces ovocytes qui sont congelés et tellement peu pour finir où ça marche et où c'est aussi utilisé. Après le imprinting, ça c'est juste un mot encore parce qu'il y a beaucoup de questionnements aussi pour la fécondation in vitro. Alors en général, les enfants-filles vont bien. Il faut vraiment faire très important, ça je crois c'est le message clé aussi, les grossesses multiples. Il y a un tout petit peu plus de malformations, ce que je vous ai déjà dit. Il y a aussi un petit peu de différence du poids de bébé. Et aussi, il y avait des études aussi de Suisse, la Scherer, qui a soupçonné des conséquences cardiovasculaires ou métaboliques. Moi, je pense que c'est vraiment à suivre. On ne sait pas encore très clair combien ça fait et quel impact. Et après, le psychisme, la fragilité pour des cancers, la fertilité future aussi et les impacts pour les générations futures. J'ai bientôt fini, hein? Mais je voulais juste vous présenter encore pour l'imprinting, l'épigénétique. Alors, qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Ce sont ces mécanismes qui contrôlent l'expression des gènes. Alors, comment ils sont exprimés? Alors, on peut s'imaginer les gènes, ce sont les lettres dans un texte. Et l'épigénétique, c'est après, ça met où il y a les espaces, aussi la ponctuation pour comprendre, entre guillemets, le texte. Alors, on sait qu'il y a une interaction des gènes avec leur environnement et ça peut déterminer le phénotype, ça veut dire comment, oui, quels symptômes ça peut avoir sur la personne. Il y a quelques études qui s'intéressent pour l'épigénétique spécifiquement et la fécondation in vitro, mais il n'y a pas de c'est pas très clair s'il y a vraiment quelque chose ou il faut encore le suivre plus. Alors ça, c'était un petit peu ce qui était mis dans cet article de Science. Il y a encore des questions qui ne sont pas très claires qu'il faut suivre. Alors, mes conclusions. Aujourd'hui, on a cette possibilité technique du social freezing et ça peut enlever beaucoup de pression et je vois beaucoup de femmes qui sont quand même enchantées d'avoir cette possibilité. Ça leur enlève les pressions psychologiques et j'avais même des dames qui ont retrouvé après un partenaire, qui m'ont écrit encore et qui avaient leur enfant après tout naturellement. Et ça, c'est génial. Peut-être même elles étaient plus soulagée, et ça pourrait peut-être faire aussi un impact. Mais il faut vraiment faire une consultation détaillée, expliquer les chances, les risques, les coûts, et aussi la LPMA. Alors, ça serait souhaitable d'avoir un âge maximum, admettons 45 ans par exemple, auquel on peut faire ce traitement et pas une durée de conservation. Et après, ça serait souhaitable aussi d'avoir plus d'enregistrement national, comme on a pour les traitements de fécondation in vitro, avoir ça aussi obligatoire pour les conservations des ovocytes à but social. Et après, il y a tout un travail sociétal sur les conditions cadres sociopolitiques. Ça serait très essentiel. Voilà, je vous remercie.